Je suis dans le cœur névralgique du Festival international du film des droits humains au théâtre Pitoef, dans quasiment l'antre des artistes, avec Nabil Ayouch. Vous venez d'arriver. Et c'est pour votre film Radia qui va être présenté maintenant au public, qui vous attend pour pouvoir échanger avec vous. Un film qui a déjà été présenté au Festival du film historique de Pessac. Et un film qui est vraiment très fort, parce que vous avez réussi avec un regard qui traverse le temps, et aussi avec plusieurs protagonistes, toucher plusieurs thématiques qui touchent bien sûr le Maroc, en l'occurrence, mais qui touchent aussi d'autres pays du Maghreb, à l'époque où, post-colonisation, décolonisation, on veut à la fois retrouver une identité à travers la langue. Une langue qui n'appartient pas à ces gens, qui sont berbères, pour la plupart. Dans d'autres régions, ils sont kabyles, par exemple. Et donc, c'est une langue qui est aussi une langue de l'occupant.
C'est une langue qu'on partage avec un grand espace géographique, le monde arabe, donc l'arabe classique. Et en même temps, nous, au Maghreb, et principalement au Maroc, on s'est construit sur la diversité culturelle. Merci beaucoup. Sur la diversité culturelle, la diversité des peuples, des cultures, avec une très forte essence berbère, amazigh, pas uniquement, mais très forte, puisqu'il y avait aussi des juifs, il y avait aussi des chrétiens.
Des espagnols, donc.
C'est ça, des chrétiens, des l'Afrique subsaharienne, enfin voilà. Et effectivement, cette réforme de l'arabisation a été brutale parce qu'elle a imposé cette langue. Et elle a aussi voulu, quelque part, gommer cette diversité culturelle en uniformisant, en créant une forme d'hégémonisme.
Et on le voit très bien à travers le personnage qui est un enseignant dans un village et qui essaye au début de lutter pour pouvoir ne pas traumatiser ses enfants et continuer à leur parler dans leur langue. Et puis en fait, on lui dépêche des gens qui viennent de la capitale pour imposer vraiment l'arabe classique.
Oui, en fait, cette réforme... Moi, j'entends l'idée, si vous voulez, de se réapproprier une identité, parce que le français n'est pas notre langue. Et passer la fin du protectorat ou des indépendances en Algérie, en Tunisie, au Maroc, l'idée de se dire, voilà, on va se réapproprier notre identité à travers la langue. Le problème, c'est que les professeurs n'étaient pas préparés. Il a fallu souvent importer des professeurs des pays du Moyen-Orient. Donc, Arabie Saoudite, Syrie, Liban, Égypte. Les professeurs sont arrivés avec une langue, mais aussi une idéologie.
Et une religion qui est plus marquée aussi.
Et un islam qui n'était pas le nôtre. L'islam wahhabite, alors que le Maroc s'est construit sur le rite malékite. Et donc, si vous voulez, c'est tous ces facteurs-là, en plus du fait qu'on a à la même époque ôté les humanités du programme, donc tout ce qui est la pensée critique, philo, sociaux, qui a concouru à niveler intellectuellement toute une jeunesse qui, 30 ans plus tard, se retrouve en perte de repères.
Et puis, on suit également d'autres identités à travers une jeune fille qui vit à Casablanca et puis une protagoniste qui est d'ailleurs votre compagne, si je ne m'abuse. Et vous avez écrit d'ailleurs à quatre mains le scénario. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de la genèse de l'écriture à quatre mains, comment ça s'est déroulé? Et puis, à quel moment vous avez sollicité votre compagne pour interpréter cette protagoniste?
Razia est née d'une expérience qui a été assez blessante et douloureuse à vivre. C'est l'interdiction de Much Love et surtout l'hystérie collective qui s'en est suivie derrière au Maroc. On a traversé ça à deux, Mariam et moi, avec par la suite une forme de sérénité, et petit à petit est remonté à la surface des personnages. Voilà. Personnages qui ont hanté ma vie, mon parcours, que j'ai aimé, qui m'ont inspiré, parmi lesquels Mariam, ma compagne, effectivement, qui ne cessait de me répéter pendant le plus dur de l'épreuve que quelque chose de beau allait ressortir de tout ça à l'arrivée, même si à l'époque je ne savais pas quoi.
Mabrouk.
Et ce quelque chose de beau, ça a été Razia, à travers ces personnages qui sont revenus dans ma vie et qui m'ont confirmé dans mes convictions, mon combat pour la liberté et ma place au Maroc, malgré tout ce qu'on a voulu créer comme animosité entre le public marocain et moi. Et donc, autour de ces personnages...
Suite à votre film précédent.
Oui, suite à Mashup. Et donc, autour de ces personnages, j'ai construit des destins, des trajectoires. J'en ai parlé à Mariam. L'idée lui a plu. Et parmi lesquels, il y avait elle, dans ces cinq personnages. Et donc, tout naturellement, sans même qu'on l'ait acté, on s'est mis à écrire l'un à l'autre, à se faire des propositions l'un à l'autre, et petit à petit est né le scénario. Et ça n'est qu'assez tard, finalement, que je lui ai proposé de passer des essais pour le rôle de Salima, parce qu'il n'y avait aucune évidence au départ, et elle les a passés brillamment, et elle a incarné ce rôle, selon moi, avec une grâce, une élégance, et une force, une puissance à l'image de ce que je cherchais.
Et c'était une première pour elle de porter un personnage à travers un film.
Oui, oui, c'est la première fois qu'elle jouait à l'écran.
Voilà. Et elle a le rôle d'une femme qui se retrouve enceinte, qui va voir ces femmes qui sont un peu spécialisées pour faire des massages abortifs. Et en même temps, on ne va pas tout déflorer du film, mais il y a toute une évolution comme un chemin initiatique qu'elle parcourt, qui est magnifique. Qui est aussi un petit peu à l'image du chemin que parcourent certains Marocains à l'heure actuelle.
Ben, je crois qu'elle incarne quelque chose qui est extrêmement fort, extrêmement prégnant chez beaucoup de jeunes Marocaines qui aujourd'hui, à travers elle, se sentent le courage de dire et d'exprimer des choses que jusqu'à présent, elles n'osaient pas. Et c'est ça qui est beau dans ce film, et c'est ce qui est beau aussi dans ce qu'on a pu constater à la sortie au Maroc, parce qu'il y a cette chape de plomb qui véritablement empêche les gens d'exister tels qu'ils veulent l'être, de crier leur envie de liberté et leur différence. Et avec des personnages comme celui de Salima, comme celui de Hakim, comme celui... d'Abdallah, il y a une parole qui se libère, et puis même, au-delà d'une parole, des actes volontaristes.
Alors, justement, vous mentionnez tous vos personnages, on voit qu'il y a un brassage important au Maroc, qui est encore assez actuel quand on voit un humoriste comme Gad Elmaleh. Ce qu'il aime, justement, quand il rentre au pays, c'est qu'il y a encore ce brassage, il y a une communauté juive qui est encore assez importante, contrairement à la Tunisie ou l'Algérie, où ils ont vraiment bouté hors du pays après la décolonisation.
Oui, c'est vrai que le Maroc fait un petit peu exception en la matière, puisqu'il y a encore... 2000 juifs environ qui y vivent. Sur les 300 000 qu'il y avait dans les années 50, c'est pas beaucoup, mais enfin, comparativement à la Tunisie et surtout à l'Algérie, effectivement, c'est bien. Et puis, le risque, si vous voulez, pour moi, c'est que cette communauté continue à partir, comme c'est le cas depuis plusieurs décennies, plusieurs années, et qu'à un moment ou un autre, on se retrouve dans le même cas. Et c'est pour ça que je fais aussi ce film, pour dire attention. Rappelons-nous qui nous sommes, rappelons-nous d'où nous venons. Nous avons encore quelque chose de précieux à protéger, qui est cette diversité culturelle.
Qui est un socle.
Qui est un socle et qui fait notre exception. Mais ce n'est pas un chèque en blanc, ce n'est pas ad vitam aeternam. Il y a toute une partie des Marocains qui ont grandi et travaillé avec les Juifs, qui sont effectivement aujourd'hui en symbiose totale avec les Juifs marocains, qui considèrent comme des Marocains comme eux. Mais il y a aussi toute une partie de la jeunesse qui a grandi dans l'ignorance de sa propre histoire.
Une sorte d'islamisation quand même aussi.
Qui a grandi au son de cette réforme, qui est une réforme de la langue et idéologique, qui, elle... ne connaît pas cette histoire et pour qui le juif marocain n'est pas marocain, est un étranger.
Un ennemi même.
Voire un ennemi, absolument, quand la manipulation et le démagogisme politique s'en mêlent. Donc c'est vrai qu'il y a deux types de réactions, d'attitudes possibles. Et le problème, c'est que cette jeunesse n'est pas informée, ne connaît pas son histoire et risque très facilement de tomber et de basculer dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui nous fait. Est-ce que nous sommes au fond ?
Un discours qui peut être pour les jeunes attrayant a priori.
Ben oui, forcément, parce que vous savez, les jeunes, ils ont besoin de croire en une cause, de se projeter. Et quand on leur donne pas la possibilité de se projeter, de rêver à travers des choses, des aspirations artistiques, culturelles, économiques ou autres, ben ils vont les chercher ailleurs. Et ils vont les chercher dans les discours religieux, dans une forme d'extrémisme, de la pensée qui est excluante. Et c'est vers ça qu'il ne faut pas les laisser sombrer.
Nabil Ayouch, c'est aussi un des gros personnages qui est comme une sorte de fil conducteur musical à travers ses goûts musicaux, Freddie Mercury. Expliquez-nous l'importance de ce fil conducteur.
Bah, Freddie Mercury, c'est pour moi c'est un symbole d'une époque, c'est une idole, c'est quelqu'un qui a incarné des identités plurielles, que ce soit au niveau ses origines, à cheval entre 2-3 pays. Au continent. Et puis, que ce soit au niveau de ses identités sexuelles, son homosexualité, même s'il n'a jamais voulu assumer l'idée qu'il avait le sida et porter publiquement ce combat, malgré tout, voilà, il incarnait quelque chose d'extrêmement fort, puissant pour l'adolescent que j'étais. Et j'ai trouvé ça avec Mariam, qui a aussi été fascinée par le personnage, assez jouissif qu'un gamin de la Médina de Gaza puisse être. Puisse avoir envie de se projeter et devenir le Freddie Mercury marocain.
Vous avez mentionné en début d'interview, Nabil Ayouch, les difficultés que vous avez vécues. Vous étiez presque mise à l'index par une certaine société marocaine après le film précédent. Actuellement, comment c'est pour vous? Puisque vous avez grandi, si je ne m'abuse, à Sarcelles, vous avez choisi de partir vivre au Maroc. Donc maintenant, vous vous sentez chez vous là-bas?
Je me suis senti très vite chez moi. J'adore Casablanca.
Pour son brassage?
Oui, pour son côté ville-monde, comme si dans le film. C'est une ville bouillonnante d'énergie qu'il faut aller chercher en permanence. Et c'est vraiment le poumon du Maroc. Donc je m'y sens très en vie et je m'y sens tout à fait à ma place depuis maintenant 20 ans que j'y habite. Et j'ai envie que ça continue, j'ai envie de pouvoir continuer à m'y exprimer très librement. Donc passer la période où effectivement je me suis posé des questions sur mon envie de rester, parce que finalement ce qui est bien avec cette épreuve de Mashup, c'est que ça a été une mise à l'épreuve, ça a testé vraiment mon amour pour ce pays, pour cette société. Et je me suis dit que j'avais envie de continuer. Tant que mon espace de liberté serait préservé, tant que j'arriverai à préserver cet espace de liberté, j'avais envie de rester vivre et continuer à y faire des films et me battre, surtout.
À propos de liberté, vous êtes là ce soir au théâtre Pitof à Genève dans le cadre du festival du film des droits humains. Vos échanges avec le public, j'imagine, c'est très riche, ça doit être très varié. Et puis il y a sans doute des gens dans le public qui ont connu cette symbiose entre les trois religions qui transparaît à travers votre film, qui est presque un paradis perdu.
Ça devient de plus en plus dur partout, parce que Razia ne parle pas que du Maroc. Razia est un film sur l'état du monde. Et les communautarismes sont en train de gagner du terrain partout, y compris ici en Europe. Des femmes qui peuvent plus s'habiller comme elles veulent dans certains quartiers, il y en a aussi ici. Donc je ne sais pas si c'est un paradis perdu, mais c'est un paradis, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut protéger parce qu'effectivement on peut le perdre. Et là on est sur une tendance mondiale. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe en Autriche, en Hongrie, en Italie. On est sur une tendance vraiment mondiale de populisme dans lequel la peur l'a emporté et la dénonciation de l'autre l'a emporté.
Et ce spectre, malheureusement, il est quand même basé, comme vous disiez au début de l'interview, on a supprimé les humanités au Maroc au moment où on a voulu arabiser. C'est aussi l'ignorance.
Oui, bien sûr, mais tout le film est construit autour de ça, de l'ignorance. La religion en soi n'est pas nocive si elle est encadrée, accompagnée par une pensée critique. Mais si elle trouve sa place. Sa place, c'est pas l'envahissement de l'autre. Mais là où ça devient explosif, c'est l'association de la religion, du religieux et de l'ignorance.
Et on comprend dans votre film qu'il y a plusieurs niveaux, justement, d'arabophones ou de non-arabophones, parce qu'on voit qu'Inès, par exemple, parle toujours en français avec sa famille. Parce que c'est les quartiers plus riches, peut-être.
La langue est un vrai marqueur au Maroc. Mmh. Et en même temps, ça délimite une frontière.
L'appartenance.
Le français est un ascenseur social. Et en même temps, c'est la langue des élites, la reproduction des élites. Donc forcément, ça exclut toute une partie de la jeunesse arabophone, pour qui le marché de l'emploi doit passer par le français, mais c'est un français qu'on leur a ôté. Les élites leur ont ôté.
Ou l'accès à l'université, peut-être aussi.
À l'université, il y a une autre forme de schizophrénie qui se met en place, c'est que quand ils ont passé le bac, on leur dit, bah maintenant on vous a obligé à faire tout votre cursus en arabe classique. Le problème, c'est qu'il y a plein de matières qui ne s'enseignent pas en arabe classique, donc vous allez passer au français. Et donc on se retrouve avec des étudiants qui n'ont jamais appris le français, forcément, parce que le système a été arabisé. Ni aucune autre langue étrangère, parce qu'à la limite, le français, ça pourrait être l'anglais, ça pourrait être... qui, après le bac, bascule dans un système où, cette fois, une bonne partie des matières doivent être enseignées en français. Ce qui fait d'eux des analphabètes bilingues, qui ne maîtrisent ni l'arabe ni le français.
La situation actuelle de la jeune génération est assez dramatique.
On est, si vous voulez, dans le monde arabe, dans des échéances où tout se rejoint. Culturel, le social, l'économique, l'identitaire, tout ce qui est de l'ordre des libertés individuelles. Parce que ces jeunes, les jeunes issus de ces réformes des années 80, sont arrivés sur le marché aujourd'hui, et que qu'ils ont des aspirations légitimes, qui veulent un emploi, qui veulent un avenir, et que l'économie de ces pays-là étant fragile, elle ne peut pas leur offrir cet emploi-là. Donc, si vous voulez, il y a une crispation qui fait que voilà, cette région du monde est devenue une zone sismique.
Il y a eu beaucoup d'espoir au moment des printemps arabes. Évidemment, on pense à l'Égypte, on pense à l'Iran, on pense à la Tunisie. Et il y a eu tout de suite des blogueurs qui mettaient en alerte en disant « Attention, ces élections sont corrompues, on essaye de soudoyer les gens en leur donnant de l'argent, en leur faisant miroiter quelques intérêts économiques pour donner des voix justement aux islamistes. » Quelle est votre opinion par rapport à ces printemps arabes ?
Le problème, ce n'est pas la corruption des élections, parce que je ne pense pas que les élections ont été corrompues. Par exemple, les élections qu'ont portées les islamistes au pouvoir au Maroc en 2011, au lendemain du printemps arabe, étaient des élections transparentes, libres.
Démocratiques.
Oui. C'est là le problème, c'est que les gens... Enfin, je ne sais même pas d'ailleurs si c'est un problème, parce que les hommes politiques n'ont pas fait leur travail pendant les différents ministres, gouvernements qui sont succédés pendant... des décennies. Les islamistes sont arrivés avec une réputation de transparence, d'honnêteté, de lutte contre la corruption, toute une série de valeurs, si vous voulez.
Et de retour aux sources, peut-être aussi.
Non, toute une série de valeurs auxquelles aspiraient les peuples arabes. Et donc, c'est tout naturellement qu'ils se sont dirigés vers eux dans les urnes, et que, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, qu'au Maroc, les amis sont passés au malin, c'est pas en soudoyant.
Rapidement, on doit vous quitter, Nabil Ayouch, malheureusement, le public vous attend. Vous avez déjà des projets, de l'écriture ?
Oui, je suis en train de préparer une comédie musicale hip-hop.
Qui se passera au Maroc.
Ouais.
On se réjouit. Un dernier mot, l'affaire Ramadan, est-ce que ça entache vraiment l'image qui est déjà un peu quand même malmenée en Occident des musulmans ?
Non, ça n'entache pas l'image d'une communauté tout entière. Non. C'est l'affaire d'une personne qui est devant les tribunaux et qui une enquête et une d'instruction qui est en cours aujourd'hui. Donc, non. Je pense qu'il ne faut pas créer d'amalgame.
Merci, l'ami Lagnouche.
Merci à vous.
Et succès pour le prochain. Merci.
Merci.